France Info. Bonsoir à tous. Avez-vous été assidu cette semaine? Assidu à l'actualité politique, cela va sans dire. C'est ce que vous allez pouvoir vérifier d'ici 22h, parce que vous le savez sans doute, dans Tout est politique, le vendredi, on passe en revue l'actualité politique de la semaine. Et puis c'est vrai, on empiète aussi un petit peu sur l'actualité à venir de la semaine prochaine. Mais n'anticipons pas et permettez-moi de vous présenter les quatre invités qui ont pris place dans ce studio. Bonsoir Christine Revaud-Allonne.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de la délégation socialiste française au Parlement européen. Bonsoir Constance Le Grip.
Bonsoir.
Député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Bruno Gollnisch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes eurodéputé, membre du bureau politique du Front National. Et enfin Pierre Person, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Député La République En Marche de Paris. Et on passe tout de suite à notre premier débat. Et je propose de parler d'abord de la SNCF. Le gouvernement préparerait-il le Big Bang de la compagnie nationale ferroviaire? La question se pose après la remise du rapport Spinetta. Un rapport qui préconise notamment la fermeture de petites lignes, de recourir à des plans de départ volontaires et de ne plus embaucher sous statut de cheminots. Édouard Philippe consultera la semaine prochaine les acteurs concernés par cette réforme. Écoutez d'ores et déjà ce qu'en pense le patron de la CGT, Philippe Martinez.
C'est un rapport qui n'est pas surprenant venant d'une commande du gouvernement qui veut casser la SNCF et le service public, tous les services publics. Je vous renvoie aux déclarations sur les fonctionnaires il y a quelques jours.
Donc c'est pas réformé, c'est cassé.
Cassé. Faudra qu'on m'explique comment, en quoi, et je défie quiconque de me le prouver, en quoi le statut des cheminots est la cause des problèmes et des incidents que rencontrent bon nombre aujourd'hui de voyageurs, les retards, etc., etc.
Philippe Martinez, chez nos confrères de France Inter ce matin. Alors, et vous, Christine Revaud-Allonne, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme en préparation? C'est une casse du service public, une casse de la SNCF?
Alors, c'est une mesure qui est annoncée, c'est pas une surprise, puisque c'est la suite du vote au Parlement européen du quatrième paquet ferroviaire qui enclenchait le processus de libéralisation de tous les opérateurs ferroviaires en Europe. Donc c'est simplement la déclinaison. Et ce rapport Spinetta, c'est simplement pour permettre de prendre le pouls, voir comment ça prend ou pas dans la société, avant de présenter le projet de loi. Je pense que c'est un ballon d'essai avant de faire la transposition de la directive sur le quatrième paquet ferroviaire. La difficulté, le problème que nous trouvons, nous socialistes français, et j'ai particulièrement travaillé sur ce sujet au Parlement européen, c'est la logique de considérer qu'on va tout améliorer si on ouvre la concurrence, ça va régler tous les problèmes. Et le problème qui est vraiment posé, c'est la question de la fracture territoriale et sociale que cela peut engendrer s'il n'y a pas de solution proposée pour toutes ces TER qui existent aujourd'hui et qui rendent service aux personnes qui n'ont pas d'autres moyens pour se rendre notamment à leur emploi. Donc le problème, c'est l'angle d'attaque qui est proposé dans ce rapport Spinetta, dans la façon de dire on va tout régler en ouvrant la concurrence. Il faut être beaucoup plus prudent sur la façon d'aborder les choses et c'est pour ça que nous étions contre au Parlement européen et que nous allons être très vigilants dans la façon dont ça va se décliner dans les propositions de loi en France.
Alors, autre parlementaire européen, Bruno Gollnisch, qu'est-ce que vous pensez de ce plan
en préparation ? Ce plan Spinetta. Je suis toujours étonné par les facultés de trahison de la classe ouvrière par les personnalités de gauche. Monsieur Spinetta est un homme de gauche, dont les recettes
ancien
d'ailleurs.
Ancien président d'Air France.
N'ont pas fait, oui, mais ça n'a pas fait merveille à Air France non plus, ces recettes. Madame Revaud-Allonne a raison, en tout cas sur un point, c'est que c'est vrai que c'est une commande de l'Union européenne. Et moi, je crois qu'il y a peut-être, il y avait peut-être certainement, dans la situation du statut de la SNCF, des choses à revoir. C'est vrai que la pénibilité est effectif pour certains cheminots, mais pas pour tous, au niveau de ce que c'était quand il fallait charger le charbon dans la locomotive. Mais ceci étant, c'est pas ça le point principal. Le point principal, c'est la transformation de la SNCF en société anonyme. Ça me rappelle quelque chose de très précis. qui était le tabac en France. Il y avait un monopole d'État, le CETA, qui rapportait beaucoup d'argent à l'État, qui permettait d'offrir un débouché aux producteurs de tabac.
Sauf que ça faisait un peu désordre, l'État, qui avait des politiques de santé contre le tabac.
On vend toujours autant de cigarettes en France.
Mais c'est Altadis.
On les vend très cher,
mais on
en vend
toujours autant. Alors, on parlera du tabac probablement d'autres fois.
Non, mais c'est très intéressant, parce que on a privatisé, on a dit ça sera une société anonyme, et puis ensuite, ça a été Altadis, et puis les morceaux ont été vendus ici ou là. Aujourd'hui, on vend toujours autant de cigarettes en France. C'est pas le problème de la santé publique. Si c'était une question de santé publique, peut-être on s'en remettrait. Mais on vend toujours autant de cigarettes, mais on en fabrique plus une seule.
On a compris que vous étiez contre.
On en fabrique plus une seule. Et je crois que ça prépare le démembrement de notre système ferroviaire.
Constance Le Grip, vous êtes également très critique?
Alors, je n'ai pas encore, à l'heure où nous parlons, lu l'intégralité du rapport Spinetta. Il y a 43 mesures qui sont proposées. Je ne sais pas si on est capable de les décliner et de les commenter l'une après l'autre. Clairement, il faut partir du constat actuel que la situation de la SNCF n'est pas bonne et ne cesse de se dégrader. Je rappelle que c'était quand même une entreprise à laquelle, à juste titre, les Françaises et les Français sont très attachés, mais qui a fini par accumuler 48 milliards de dettes. Donc on ne peut pas se contenter de faire comme si de rien n'était et continuer business as usual. Il y a incontestablement nécessité, effectivement, de commencer à décliner, à transposer les règles européennes, le fameux paquet ferroviaire à laquelle faisait allusion ma collègue Revaud-Allonne, qui va progressivement permettre d'ouvrir à la concurrence. Mais il y a également, tout simplement, à prendre un certain nombre de mesures de bon sens pour redresser, économiquement parlant, redresser les comptes de la SNCF.
Donc
redresser
on ne vous la SNCF. Sent pas complètement
alors,
hostile.
Et je ne suis pas totalement hostile. Bien évidemment, moi également, je serai, comme l'ensemble des membres de ma famille politique, les Républicains, très attentif à l'aspect aménagement du territoire.
Constance Le Grip, moi je suis très attentif à une chose. À l'heure qu'il est, il est 21h10, c'est l'heure des titres. Diane Verschiet nous a rejoint dans ce studio pour l'info.
Déjà condamné à la perpétuité pour 7 assassinats, Michel Fourniret a avoué aujourd'hui 2 nouveaux crimes, ceux de 2 jeunes filles au début des années 90 dans le département de l'Yonne. Celui que l'on surnomme l'ogre des Ardennes a fait des aveux circonstanciés et réitérés selon l'avocate de la famille d'une des 2 victimes. Il n'y a pas eu de viol dans l'affaire de violence policière à l'encontre du jeune Théo, c'est ce que disent des expertises médicales révélées ce soir par nos confrères de France Inter. Théo avait été arrêté à Aulnay-sous-Bois il y a un peu plus d'un an. L'enquête devrait se terminer la semaine prochaine, les faits pourrait être requalifié. La plainte pour viol à l'encontre de Gérald Darmanin, classée sans suite. Selon le parquet, l'enquête n'a pas permis d'établir l'absence de consentement de la plaignante. Pour la 2e affaire concernant une plainte pour abus de faiblesse, l'enquête se poursuit. Elle a été ouverte mercredi. Le jeune tireur responsable de la mort de 17 personnes dans un lycée de Floride avait été signalé au FBI. La police fédérale américaine admet avoir reçu un appel décrivant le comportement du jeune homme et son intention de tuer des personnes dans un établissement scolaire. Le FBI reconnaît une grave défaillance. Et puis à 36 ans, Roger Federer devient le plus vieux numéro 1 mondial. Il a battu en quart de finale le néerlandais Robin Haase au tournoi de Rotterdam. Son dernier sacre datait de novembre 2012. Fin janvier, il s'était offert un autre record à l'Open d'Australie avec le plus grand nombre de titres majeurs chez les messieurs, soit 20 victoires.
France Info. 21h, 22h, tout est politique. Olivier Delagarde.
Et on poursuit le thème de ce premier débat. On parle de la SNCF et du rapport Spinetta. Alors, Pierre Person, vous représentez la République En Marche. Vous venez d'entendre ce qu'ont dit le patron de la CGT, puis Christine Revaud-Allonne, puis Bruno Gollnisch. En gros, vous êtes en train de casser la SNCF.
Non, je pense qu'il faut sortir des postures. Aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? Eh bien, c'est améliorer le service ferroviaire, c'est améliorer le service public du transport. Moi, je peux pas me satisfaire de l'état actuel de la SNCF, à la fois financière, comme le disait Madame Le Grip, mais aussi en termes de qualité du service. Et si aujourd'hui, un rapport qui est d'experts, qui n'est pas en fait le projet de loi, qui sera avancé peut-être, en tout cas, les arbitrages du gouvernement qui suivront...
C'est un ballon d'essai, disait Christine Revaud-Allonne.
Il faut arrêter de voir toujours des connotations. C'est bien normal que des experts dans notre pays...
Oh, la politique, ça existe.
Non, mais des experts dans notre pays contribuent aussi à l'analyse objective qu'est le fonctionnement de la SNCF. Donc, moi, je pense qu'il faut respecter la méthode. Il y a un rapport qui préconise des orientations, des pistes, et puis il y aura décision du gouvernement avec peut-être un projet de loi à la clé.
Bon, alors, et le débat au Parlement, on verra.
Tout à fait.
Parmi les points qui vont être les plus débattus, les plus sensibles, le statut des cheminots, faut-il garder un statut particulier pour les cheminots, statut qui est évidemment très avantageux par rapport au statut classique, Christine Revaud-Allonne?
Évidemment, et ça c'est le seul point positif que j'ai vu dans le rapport, parce que je l'ai quand même regardé, vu que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et sur cette question-là, et j'espère que la déclinaison en projet de loi sera maintenue, il est très clairement indiqué que le transfert des personnels doit se faire selon le statut dans lequel ils sont aujourd'hui. C'est un principe de base.
Alors,
et
si
il
vous
ne
avez
faut pas
bien
déroger
lu,
à la suite.
Si vous avez bien lu le rapport, vous aurez lu également que ce qui est préconisé, c'est que l'embauche des nouveaux
agents, les nouveaux ne seront pas sous l'ancien statut.
Ne seront pas sur ce qui veut dire que c'est la disparition du statut à terme.
Mais c'est
une fois que les gens
mais
sont
c'est déjà malheureusement ce qui se produit. Regardez à la SNCF, à RATP, chez tous les opérateurs de services publics de transport aujourd'hui. Tous ceux qui arrivent sont pas forcément selon le statut de cheminot. Ils ont des statuts contractuels complètement différents. Donc on a effectivement cette situation-là où il y a des distinctions de statuts et c'est ce sur quoi il faut vraiment travailler. Mais c'est pas le point le plus inquiétant. Je vais revenir sur ce qui était dit tout à l'heure. Il faut absolument un service public de transport. Et je pense pas que les cars soient l'alternative à toutes les, sur tous les
alors,
territoires.
Il peut y avoir
des territoires où c'est pertinent et d'autres où ça ne l'est absolument pas et où aujourd'hui, à cause de fermetures progressives de lignes de TER, il n'y a plus d'accès au transport. Et ça, c'est absolument impossible.
Je voudrais également interroger vos petits camarades sur le statut. C'est une catastrophe, la fin du statut des cheminots ?
Objectivement, envisager de regarder avec un œil un peu moderne le statut des cheminots, sortir peut-être d'une vision un peu passéiste du statut des cheminots n'est pas quelque chose qui me choque. Hein. Je pense qu'on peut considérer qu'il y a matière à faire évoluer ce statut, à l'ouvrir, à le simplifier, à l'assouplir, et qu'il n'y a pas là quelque chose qu'il faille forcément garder dans le formol. Donc ça ne me choque pas que la question soit posée et qu'on envisage d'aller vers quelque chose de plus adapté au monde d'aujourd'hui, au monde du travail, au monde de l'emploi d'aujourd'hui.
Bruno Gollnisch, vous nous disiez déjà que le statut aujourd'hui...
On pouvait moderniser ce statut, mais encore une fois, le problème essentiel n'est pas là. Le problème essentiel, c'est de savoir s'il y aura encore des trains français roulant sur le réseau français. C'est ça. Déjà, quand nous allons à Strasbourg, la moitié des trains sont des trains allemands, des ICE, d'ailleurs extrêmement
confortables. Qui fonctionnent très très bien.
Tout à fait confortable.
Mais il y a des trains de la SNCF qui roulent en Allemagne.
Je crois que quand même, on fait. Il y a des gens qui sont hors statut, je pense, à une ministre de l'actuel gouvernement qui était extraordinairement bien payée. Beaucoup plus que les cheminots sous statut, que je sache. Je ne veux pas en faire une affaire personnelle, mais encore une fois, on a fait n'importe quoi avec la gestion de la SNCF. On a essayé, après avoir créé cette société nationale, ces 20 dernières années, on a essayé de refiler l'ardoise aux régions. Alors on a demandé aux régions d'investir, on a donné...
C'est ce qui se passe d'ailleurs, 70% du TER
mais
est payé
c'est une politique,
par les régions.
Oui, mais c'est une
et aujourd'hui on s'est engagé à conserver.
Par exemple, l'autre jour, je suis rentré de Genève à Lyon avec une voiture, une locomotive qui portait fièrement les armes de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les trains circulent.
Une conception de la région Provence qui remonte au Bourgogne, je pense. Mais
Pierre Persson.
Et aujourd'hui, on veut recentraliser. On a séparé, et ça a été catastrophique, le réseau de l'exploitation ferroviaire, et maintenant on privatise. Je crois qu'il va être difficile au chemin de fer français de s'en remettre, je crois.
Pierre Persson, une des accusations qui revient fréquemment depuis 48 heures, c'est la question d'aménagement du territoire. C'est l'abandon de petites lignes, l'abandon de petites gares. C'est ça votre projet pour la SNCF ?
L'enjeu, c'est pas les trains. L'enjeu, c'est la mobilité dans ces territoires. Et aujourd'hui,
vous parlez un peu comme une plaquette publicitaire,
quand on développe des réseaux qui ne sont pas des réseaux ferroviaires, mais notamment avec des autocars, et qu'on relie, des zones qui ne sont pas reliées, notamment lorsque Macron libéralise le monde de l'autocar, on dessert des zones qui aujourd'hui n'étaient pas desservies. Donc il faut arrêter toujours un peu les totems à avancer le train comme étant le seul bouclier ou le seul facteur de mobilité. Ce n'est pas vrai aujourd'hui, et ça se saurait. Donc il faut regarder un ensemble cohérent. Et donc, je le redis, la question du statut des cheminots, il n'y a pas de totem en France. Et donc, la question, c'est simplement comment l'intérêt de l'usager en France et l'intérêt de l'usager du service ferroviaire est le mieux mis en avant et le mieux accompli.
Constance Legrippe, sur cette question d'aménagement du territoire, il y a danger pour vous avec cette réforme ?
Nous avons simplement déjà exprimé que nous serons très vigilants.
Parce que les Républicains, là, c'est votre nouveau cheval de bataille. Hein, c'est la défense du terroir.
Mais c'est important. Petits... La défense d'un aménagement du territoire équilibré qui permette qu'il n'y ait pas de zones qui se sentent abandonnées et perdues pour la République, dans tous les domaines. Hein, mais l'aménagement du territoire, bien sûr, c'est important. Ceci dit, il y a également des contingences économiques, budgétaires à prendre en compte. Si on veut sauver la SNCF, non pas la casser, mais la sauver, il faut inconsciemment la réformer, la transformer. Mais le rapport Spinetta, ça n'est que le début, encore une fois, on va l'analyser calmement, et puis on essaiera surtout de peser dans le débat parlementaire.
Christine Rodalone.
Oui, le problème, c'est que si on raisonne uniquement en termes de rentabilité économique, on va fermer des lignes parce qu'elles ne vont pas être rentables. Les opérateurs, qu'ils soient français, européens ou autres, les prendront pas parce qu'elles ne seront pas rentables. Et probablement que les cars privés ne voudront pas non plus utiliser et être présents sur des lignes non rentables. Donc finalement, on garantit quoi comme service après aux usagers? La question, elle n'est pas uniquement de s'intéresser au territoire, elle est d'abord de s'intéresser aux usagers, ceux qui ont besoin de ces transports à des prix qui soient raisonnables. Et c'est ce que permet les TER, parce que les TER sont accompagnés par les régions qui connaissent bien leur territoire.
C'est pour
Et le principe de la rentabilité ne peut pas être la clé de tout. Et les régions n'ont pas les moyens suffisants pour permettre d'assurer ce transport.
Ces services ne sont pas rentables et nous les conservons.
Est-ce que vous pouvez me dire en quoi le fait de passer du statut de société nationale à celui d'une société privée par action va améliorer la qualité du service pour l'usager?
C'est une très bonne question, mais il n'y aura pas de réponse parce qu'il est 21h20, c'est l'heure des titres sur France Info. Diane Ferchit, l'info.
L'affaire Théo et une expertise médicale concluent qu'il n'y a pas eu de viol. C'est une information de nos confrères de France Inter ce soir. Théo avait été grièvement blessé par la matraque d'un des policiers lors de son arrestation. Les faits s'étaient produits à Aulnay-sous-Bois en février 2017. Le juge d'instruction en charge de l'affaire devrait clore son enquête la semaine prochaine. 28 ans après les faits, Michel Fourniret avoue le meurtre de deux femmes, deux jeunes filles de 19 et 20 ans tuées au début des années 90 dans l'Yonne. Seul le corps de l'une d'entre elles a été retrouvé. Pour l'avocate de la famille d'une des victimes, ses aveux viennent confirmer les certitudes des parents. Michel Fourniret est déjà condamné à la perpétuité pour 7 assassinats. L'enquête pour viol visant Gérald Darmanin, classée sans suite par le parquet avant d'être relancée en janvier, elle avait déjà été classée sans suite en juin dernier. La plaignante ne s'était pas présentée devant les enquêteurs qui souhaitaient l'interroger. Le ministre des Comptes publics reste visé par une autre enquête pour abus de faiblesse. Quand on est attaqué, on se défend. La réaction de Philippe Martinez au lendemain de la présentation du rapport Spinetta sur la réforme de la SNCF. Le secrétaire général de la CGT appelle les cheminots à une manifestation nationale le 22 mars. Ils veulent notamment défendre leur statut. Le rapport Spinetta recommande, entre autres, la fin du statut de cheminot à l'embauche.
France Info. 21h, 22h, tout est politique. Olivier Delagarde.
Tout est politique, on parlait de la SNCF il y a quelques instants, mais l'actualité de cette semaine, eh bien, c'est aussi cela. Écoutez. Ah, que de souvenirs merveilleux, le retour du service national.
Pas pour tout le monde.
Non, je pense qu'on est assez peu dans ce studio à avoir fait notre service militaire. Emmanuel Macron a précisé donc sa pensée cette semaine devant l'association des journalistes présidentiels. Oui, ce service sera mis en place. Oui, il sera obligatoire. Et oui, il pourra prendre une forme plus civique que militaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bruno Gollnisch?
Écoutez, de mon temps, on n'arrivait pas à mobiliser toute une classe d'âge. Et encore, le service militaire ne s'adressait-il qu'aux garçons. Bon, moi, j'ai fait un service militaire formidable dans la Marine nationale. Ça, c'est autre chose. Je vois pas très bien ce qu'on va pouvoir faire à tous ces jeunes gens en 3 mois ou en 6 mois.
On ne sait pas encore. Là.
Non, mais écoutez, c'est extraordinaire. Là aussi, sous les gouvernements précédents, dont M. Macron faisait quand même partie, on a continué à vendre le patrimoine immobilier des armées. Donc on n'a plus de place pour loger ces jeunes gens. Qu'est-ce qu'on va leur faire faire s'il s'agit de donner une instruction militaire rudimentaire?
Mais ça veut dire que vous êtes contre ce retour au service national?
Je ne suis pas hostile au principe, mais en tout cas, il y a une chose contre laquelle je suis, c'est d'avancer comme ça un certain nombre d'idées, alors que manifestement, les moyens ne suivront pas, qu'on ne donne pas la méthode, qu'on ne sait pas ce qui lancera concrètement. On lance comme ça, on ouvre plein de chantiers, ça fait illusion, ça permet de parler. Mais comment va-t-on réaliser tout cela ?
Constance Legrippe, est-ce que ce retour d'un service national est à votre goût ?
Alors, tout dépend de ce que l'on appelle le service national universel. Le président de la République, pour l'instant, livre un objet politique non identifié. Moi, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes à lire dans notamment un rapport parlementaire récent qui a été présenté le mercredi 14 février, qui émane de deux collègues députés, Marianne Dubois pour Les Républicains, Émilie Guérel pour La République En Marche, un rapport qu'elles ont présenté au nom de la Commission de la Défense, qui a été ensuite adoptée à l'unanimité par tous les membres de la Commission de la Défense et qui fait des propositions très précises pour un service national universel articulé sur plusieurs étapes, avec une étape qui démarre dès le collège, articulée sur plusieurs années, avec plusieurs dimensions, et qui présente en quelque sorte un parcours citoyen extrêmement riche, extrêmement diversifié, pluridisciplinaire en quelque sorte, qui commence dès le collège avec vraiment la restauration d'une éducation civique, morale, mais également sur les questions de défense, avec une semaine de la citoyenneté et de la défense qui se déroulerait tout au long du collège, de la 3e à la 6e annuellement, une semaine tout entière dédiée, ensuite un parcours au cours des années de lycée pour les 16-18 ans, des étapes à la fois obligatoires tout au long de la scolarité, et puis ensuite, bien sûr, la montée en puissance, à partir de 18 ans, la montée en puissance sur la base du volontariat, la montée en puissance des dispositifs déjà existants. Donc il y a des propositions sur la table qui me semblent être à la fois finançables, faisables, qui base cela sur le mode du volontariat et qui sont de nature à intéresser les garçons et les filles, et à commencer surtout très jeunes, parce que au fond un service national universel, pourquoi faire,
on va pas restaurer le service militaire,
c'est pour apprendre des valeurs.
Je suis très heureux d'entendre son discours sur le sujet, parce que je pense que c'est un sujet totalement apartisan. L'enjeu, c'est la cohésion sociale, c'est l'unité nationale, c'est permettre à une classe d'âge, 600, 800 000 personnes...
C'est pas partisan, Christine Rodelin va parler après.
Sûrement, peut-être, mais on a le droit à l'échange sur le sujet. Mais pour le coup, l'enjeu, c'est de favoriser l'engagement. Il pourrait y avoir un engagement qui sera de type peut-être militaire, mais il pourra y avoir un engagement civique, un engagement associatif. Moi-même, j'ai été militant pendant ma jeunesse, pendant ma faculté de droit. Et donc, à cette occasion, j'ai pu exercer de type bénévole des activités qui ont favorisé à la fois l'intérêt général, et donc j'y ai apporté quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que toute une classe d'âge s'associe à un mouvement général. Et je pense que c'est une très bonne chose pour la jeunesse.
Christine Rovaud-Dallon, oui. C'était une grosse bêtise qu'a fait Jacques Chirac de supprimer le service militaire
C'est non. Avec Lionel Jospin, je crois.
C'est Lionel Jospin. C'est sous la présidence de Jacques Chirac.
Tout à fait. Bon. Alors, sur cette nouvelle proposition, moi, j'attends de voir sur les questions d'organisation, de contenu et aussi et surtout de financement. Pour l'instant, c'est des choses qui sont encore floues. Et avant d'avoir ces éléments-là, compliqué de dire pour ou contre. Ce que j'observe toutefois, c'est que ce qui a été mis en place par François Hollande et par Bernard Cazeneuve, il n'y a pas si longtemps que ça, ce service civique, certes sur la base du volontariat, mais qui a démontré qu'il était extrêmement bénéfique pour les jeunes qui choisissaient cette orientation de service civique et qui s'engageaient pour un temps déterminé. Ça leur permettait également de passer leur permis de conduire ou d'avoir ensuite des propositions d'offres d'apprentissage ou d'emploi. Était un système qui fonctionnait plutôt pas mal. Alors, pourquoi partir, effacer tout ça et partir sur quelque chose de nouveau alors qu'il y avait cet exemple pour qu'il soit universel. Mais alors dans ce cas, encore une fois, organisation, contenu, financement. Il faut avoir tous ces éléments-là pour voir si c'est effectivement possible et réalisable, voir comment vont être incitées les régions, puisqu'on parle beaucoup d'hébergement dans les lycées, les internats, donc ça veut dire un financement région. Donc comment ça va se passer? Il y a beaucoup de points d'interrogation qui ont besoin d'être précisés.
Évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Tout est politique, ça continue dans quelques minutes, mais pour l'heure, la météo, l'info, on se retrouve dans 5 minutes.
Économie. On fait désormais en moyenne plus de 30 commandes par an sur Internet et pour un total de près de 2 200 € contre 760 il y a 10 ans.
International.
Séoul, ces rues animées qui vibrent au rythme de la K-pop. Dans cette société capitaliste ultra compétitive, il est parfois difficile de se faire une place pour les réfugiés.
Culture. Changement de braquet ou carrément changement d'air pour Franz Ferdinand. Après 4 albums clairement rock et plus de 15 ans d'existence, les Écossais ont eu envie de se réinventer.
Pour l'info 24h sur 24, France Info, 2. Ouvrez l'info.
France Info Météo avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Sébastien Léas, Météo France.
Le week-end va commencer par une journée maussade avec le passage d'une perturbation. La matinée sera pluvieuse, du quart nord-est à Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Languedoc et à la Côte d'Azur. Il va neiger des 1800 mètres sur les Alpes, mais en pleine sur l'Alsace et la Lorraine. Et des Pyrénées au Poitou-Charentes jusqu'au sud-est parisien, la matinée sera aussi très nuageuse avec quelques passages pluvieux. Demain après-midi, la limite pluie-neige va s'abaisser vers 1300 mètres sur le massif alpin et la neige tombera encore en pleine sur la Lorraine et l'Alsace. On pourra avoir localement jusqu'à 5 à 10 cm. L'après-midi sera pluvieux à l'est du Rhône jusqu'en Franche Comté, mais du sud-ouest au Languedoc-Roussillon jusqu'en Bourgogne et en Champagne. La couche nuageuse va un peu se morceler. Le nord-ouest sera épargné par ce temps perturbé avec du soleil et de belles éclaircies qui vont même se propager jusqu'au bassin parisien et au Hauts-de-France ainsi qu'à la Bretagne. Les températures seront en baisse, prévoyez seulement 2 degrés sous la neige à Strasbourg, 5 degrés à Dijon, 9 degrés à Lille, Paris et Clermont-Ferrand, 11 degrés pour Nantes, Lyon et La Rochelle, mais jusqu'à 15 degrés à Ajaccio.
21h30 sur France Info.
France Info.
2. Ouvrez l'info.
Est présenté par Frédéric Beniada. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir. Les nouveaux aveux de Michel Fourniret. Il reconnaît 2 autres meurtres perpétrés dans les années 90 dans l'Yonne. Le tueur en série a été condamné à perpétuité pour avoir tué 7 jeunes filles. Il reconnaît aujourd'hui avoir tué Johanna Parisch, assistante d'anglais dans un lycée d'Auxerre en 90, et Marie-Angèle Domès, une jeune fille handicapée mentale de 19 ans, disparue elle en 1988. Un soulagement pour l'avocat de la famille de Johanna Parisch, maître Didier Séban.
28 ans après les faits, obtenir des aveux et la confirmation de ce qu'on suspectait depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que l'auteur de leur malheur était Michel Fourniret et Monique Olivier, puisqu'ils auraient agi de concert, c'est évidemment pour les familles enfin l'explication du malheur qui les a frappés. C'est un moment extrêmement douloureux, et puis ils ont ça particulier, monsieur et madame Parisch, que ils voulaient être sûrs de la vérité qu'on leur donnait. Donc ils m'ont toujours dit, est-ce qu'on est sûr? Alors, on veut être sûr de qui a tué notre fille. Je crois que là, on s'approche tellement près de la vérité qu'ils pourront être sûrs de celui ou de ceux qui ont causé leur malheur.
Les faits bientôt requalifiés dans l'affaire Théo. Une récente expertise médicale conclut à l'absence de viol. La matraque télescopique d'un policier d'Aulnay-sous-Bois n'aurait pas pénétré l'anus du jeune homme lors de son interpellation il y a un an. Une épine de moins dans le pied de Gérald Darmanin. L'enquête pour viol visant le ministre de l'Action des Comptes Publics est classée sans suite. Gérald Darmanin dit ce soir saluer ce classement et maintenir sa plainte en dénonciation calomnieuse, mais il reste sous le coup d'une autre accusation pour abus de faiblesse. La CGT appelle à la mobilisation à la SNCF le 22 mars prochain, mobilisation contre les projets de réforme du groupe public après la remise au Premier ministre du rapport de Jean-Cyril Spinetta, rapport qui prône une remise en cause du statut de cheminot et la fermeture de petites lignes jugées peu rentables. Beaucoup de monde attendu sur les routes ce week-end avec le début des vacances d'hiver de la zone C, les académies d'Île-de-France de Toulouse et Montpellier, bison futé, voie orange, Georges demain au niveau national. Et noir en direction des stations alpines. Ça roule pour Renault. Le groupe automobile annonce un bénéfice net record en 2017 en hausse de 50% à plus de 5 milliards d'euros. Tous les voyants sont au vert, que ce soit pour Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et Lada. C'est la plus jeune médaillée française aux Jeux Olympiques d'hiver. Julia Pereira de Souza, 16 ans, enlève l'argent dans l'épreuve du snowboard cross et apporte à la France sa 7e médaille. Les places financières, la Bourse de Paris termine la journée sur une hausse de 1,13% à 5 281 points.
Tout est politique, Olivier Delagarde.
Tout est politique. Quatre invités ont pris place dans ce studio. Christine Revaud-Dallonne, députée européenne socialiste. Constance Le Grip, députée Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bruno Gollnisch, député européen également Front National. Et Pierre Person, député La République En Marche de Paris. Alors vous le savez, le vendredi, on passe en revue de l'actualité politique de la semaine. Et puis on empiète un petit peu sur celle de la semaine prochaine. Et ça va être le grand sujet de la semaine. La loi asile et immigration, elle sera présentée en Conseil des ministres mercredi prochain. On en connaît les grandes lignes, allongement de la durée maximale de rétention, réduction du délai de recours et fin du caractère suspensif de ces recours. C'est un peu technique, mais c'est très important. Le gouvernement parle évidemment d'un texte équilibré. La question derrière ce texte, finalement, c'est la suivante. Est-ce que la France est suffisamment accueillante? Écoutez d'abord la réponse de Jack Lang. Il était l'invité de France Info ce matin.
Vous constatez que des petits pays, grands peuples, mais petits pays géographiquement, comme la Jordanie ou le Liban, accueillent l'un 2 millions de réfugiés, l'autre 3 millions de réfugiés. Quand vous voyez que l'Allemagne, ce grand pays démocratique que j'admire beaucoup, a accueilli l'an dernier près d'1 million de migrants. Franchement, on est petit, on est mesquin. La France, quand même, un pays d'ouverture. Il y a un langage qu'on ne devrait pas utiliser, et il y a une manière de faire qui me paraît choquante pour un pays humaniste comme le nôtre.
Vous entendez, Pierre Person, on est petit, on est mesquin. Est-ce que la France est à la hauteur de son devoir humanitaire?
Oui, la France est à la hauteur de son devoir humanitaire. La France a multiplié les places d'accueil. Aujourd'hui, on est bien conscient qu'il y a en effet une recrudescence du phénomène migratoire, mais ça date pas de 2017, hein, c'est 2016, la pointe. Et aujourd'hui, il y a tout un enjeu, l'enjeu d'avoir un système qui fonctionne mieux, mais qui fonctionne mieux pour tout le monde. Pas simplement aujourd'hui pour les Français d'un point de vue national, mais aussi pour les gens qui souhaitent obtenir l'asile en France. Et quand le droit d'asile ne revêt pas la réalité des faits matériels que normalement devrait lui concéder la loi, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que les procédures sont trop longues, parce que vous n'y avez pas de droit de travailler, parce que vous n'avez pas de logement, eh bien il faut donner des moyens. C'est pour ça que vous citiez une partie des mesures qui seront avancées dans le projet de loi, mais il y a aussi tout le volet sur l'intégration. Et il faut insister là-dessus, parce que ce que nous avons raté depuis 20 ans, c'est l'intégration. C'est arrêter d'aborder les choses en silo, à la fois l'hébergement d'urgence d'un côté, l'intégration de l'autre, la scolarisation, l'apprentissage du français. Donc il faut se redonner des véritables moyens, et c'est ce que va faire la loi.
Alors, Bruno Gollnisch, comment vous voyez le verre à moitié vide, aux trois quarts vide, totalement vide?
C'est une nouvelle loi, une de plus, qui traite les symptômes et qui ne s'attaque pas aux causes. Voilà, les flux migratoires totalement incontrôlés continuent d'arriver. On va modifier un peu, dans le sens de l'accélération, les procédures d'examen de l'asile. Bon, très bien, mais le problème, les déboutés du droit d'asile, ils ne retournent jamais pratiquement dans leur pays. Il y en a, je crois, la Cour des comptes avait donné un rapport, il y en a 3 ou 4% qui reviennent. Notre pays est aujourd'hui un pôle d'attraction pour toutes sortes de malheureux dont je...
Ce devoir humanitaire,
je ne suis pas, tout de même. Je ne suis pas. Oui, mais voyez-vous, Monsieur Lagarde, je pense qu'il doit y avoir à peu près 1,5 milliard d'êtres humains, nous sommes 6 milliards aujourd'hui sur le globe, il doit y en avoir à peu près 1,5 milliard qui pensent qu'il serait mieux, sans doute, chez nous, que restant chez eux. Alors, le devoir humanitaire...
Et devant cette masse, ça veut dire qu'il ne faut rien faire?
Jusqu'où? Non, je ne dis pas qu'il faut rien faire. Je pense qu'il faut l'Organisation des Nations Unies intervienne en Érythrée. Il faut que nous placions les nations arabes devant leurs responsabilités. Il y en a qui sont très riches, qui sont nos partenaires commerciaux et politiques, et qui n'accueillent pas un seul réfugié en provenance du Proche ou du Moyen-Orient. Il faut que nous modifions notre code de la nationalité pour que la nationalité française s'hérite ou se mérite, mais qu'elle ne soit pas distribuée inconsidérément à des gens qui ne le méritent pas. Il faut que les déboutés du droit d'asile soient effectivement expulsés. Il faut que peut-être les jeunes Afghans qui se massent à nos frontières soient peut-être mobilisés et renvoyés dans leur pays qui est en guerre. Est-il naturel, trouvez-vous naturel, que nous envoyions des jeunes Français aller se faire tuer en Afghanistan, soi-disant pour protéger ce pays contre la dictature des talibans? Et que les jeunes Afghans, qui sont parfaitement en âge de se battre et de se défendre pour leur pays, viennent ici, en quelque sorte, chercher l'asile. Est-ce que c'est une situation naturelle? C'est pourtant une situation que tous les gouvernements successifs ont tolérée depuis 20 ans.
Christine Rouvaud-Dallone.
Alors, il y a les fantasmes, tout ce qu'on vient d'entendre là. Ah. Et puis il y a la réalité, il y a les faits. Et moi, j'invite tout le monde ici, autour de la table, à lire Hervé Le Bras, L'âge des migrations, qui pose factuellement les migrations depuis la nuit des temps dans le monde entier pour arrêter avec ces histoires de flux, de marées, de pression. C'est absolument pas le cas, c'est absolument pas la situation actuelle. Et très franchement, si on regarde au niveau européen, comment nos collègues nous regardent, nous, la France, par rapport au faible taux de réfugiés que nous avons accueillis aujourd'hui. Notre tâche est immense et nous avons beaucoup à faire. Et nous ne sommes pas regardés comme étant le pays qui intègre le plus. On a vraiment beaucoup à faire et ce que je regrette dans ce projet de loi. Je pensais que ce projet de loi s'attacherait à décliner le rapport que nous avons voté au Parlement européen au mois d'octobre 2017, présenté par Madame Cecilia Wikström, une Suédoise qui est membre du groupe des libéraux et démocrates, et dans lequel on considère d'une part qu'il faut qu'il y ait plus de solidarité au niveau européen et que pour que cette solidarité fonctionne, il faut arrêter avec le principe de la procédure dite de Dublin. C'est quoi cette procédure ? C'est la procédure qui considère qu'un réfugié ne peut faire examiner sa demande d'asile uniquement dans le pays d'entrée. Et comme aujourd'hui, ils viennent principalement de la Méditerranée, ça concerne l'Italie, ça concerne Malte, ça concerne la Grèce. Et ils ne peuvent pas le présenter ailleurs puisque c'est ce principe-là qui compte. Nous avons adopté avec une très large majorité un rapport qui dit c'est terminé. Le pays d'entrée n'est pas le pays d'accueil. Et pourquoi ? Le texte qui est proposé aujourd'hui ne va pas dans le sens de la politique européenne de solidarité et l'accueil des réfugiés, mais va uniquement sur les questions de ceux qui
le débat va se poursuivre parce qu'il est très important. Consensus grippe s'est pas exprimé. Il est 21h40. On laisse passer l'info et on reprend le débat. Diane Verschiet nous a rejoint dans ce studio.
Michel Fourniret avoue deux nouveaux crimes commis dans Lyon au début des années 90, ceux de Johanna Parich et de Marie-Angèle Domès. Elles étaient âgées de 19 et 20 ans. Seul le corps de Johanna Parich a été retrouvé. Michel Fourniret a été entendu dans le plus grand secret à plusieurs reprises depuis une semaine par une juge d'instruction. Il a déjà été condamné à la perpétuité il y a 10 ans pour 7 assassinats. Il n'y a pas eu de viol dans l'affaire de violence policière à l'encontre du jeune Théo. C'est ce que disent des expertises médicales révélées ce soir par nos confrères de France Inter. Théo avait été arrêté à Aulnay-sous-Bois il y a un an. L'enquête devrait se terminer la semaine prochaine et les faits pourraient être requalifiés. La plainte pour viol à l'encontre de Gérald Darmanin classée sans suite. Selon le parquet, l'enquête n'a pas permis d'établir l'absence de consentement de la plaignante. Pour la deuxième affaire concernant une plainte pour abus de faiblesse contre le ministre, l'enquête là se poursuit. Elle a été ouverte mercredi. Le début des vacances pour la zone C avec quelques difficultés ce soir pour les automobilistes. Demain, bison futé, verra noir en Auvergne-Rhône-Alpes, orange partout ailleurs dans le sens des départs. Attention aussi si vous avez prévu de prendre l'avion au départ de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ce week-end. Le RERB est fermé pour travaux entre Aulnay et Roissy et les VTC organisent un barrage filtrant sur l'A1. Les VTC qui bloqueront aussi les accès à l'aéroport de Nice demain matin. Ils demandent la reprise des négociations avec le ministère des Transports.
France Info.
21h, 22h, tout est politique. Olivier Delagarde.
Et on revient à notre débat sur la loi asile et immigration. Constance Le Grip, députée Les Républicains, je me tourne vers vous. Vous avez entendu Bruno Gollnisch et Christine Revaux-Dallone sur des points de vue évidemment diamétralement opposés. Vous, à votre avis, la France en fait trop ou pas assez pour ces migrants ?
Alors, de manière générale, je pense que dans ce type de débat, on est toujours en train de mélanger des catégories de personnes, les réfugiés, les demandeurs d'asile, les migrants économiques. Tout cela peut peut-être alimenter, un, la boîte à fantasmes, deux, les postures généreuses, etc. Mais si on revient à ce qui va être le tri, je me garderai bien de faire le tri, mais je veux bien revenir au sujet que vous nous avez alloué, qui est de parler de ce que l'on peut éventuellement déjà un peu commencer à connaître du projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine par le gouvernement et qui est un projet de loi asile, hein, qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, encore une fois, moi je suis un député de l'opposition, je n'ai pas vu le projet de loi du gouvernement, mais je crois comprendre qu'il sera quand même très ciblé sur une tentative d'amélioration des procédures de demande d'asile en France. Et s'il s'agit d'améliorer les procédures de demande d'asile, de faire en sorte qu'elles soient traitées plus rapidement, plus efficacement, je ne peux que souscrire à cet objectif. Encore une fois, il faut regarder très précisément ce qu'est l'asile. Encore une fois, il y a certainement des choses à faire pour améliorer le traitement des demandes d'asile, ne pas mélanger les migrants économiques et celles et ceux qui ont véritablement vocation à pouvoir obtenir en France l'asile politique. Les réfugiés de guerre ont bien sûr, ceux qui fuient des théâtres de guerre, vocation à obtenir l'asile en France.
Donc un texte relativement équilibré,
au final. Exactement ce que seront les dispositions proposées par le gouvernement. J'ai un peu peur, nous sommes extraordinairement vigilants, encore une fois nous n'avons pas vu, moi je n'ai pas vu le texte écrit, nous serons extrêmement vigilants à ce qu'il n'y ait pas d'un côté des dispositions qui par exemple cherchent à rendre plus efficace le traitement et donc plus rapide des demandes d'asile et de l'autre côté des failles, des manques. Est-ce que par exemple on va s'attaquer à la question du regroupement familial? On a là quelques indices qui nous rendent un tout petit peu soupçonneux. Il nous semble que permettre le regroupement familial pour toutes les personnes qui seraient en situation de demande d'asile n'est pas quelque chose d'extrêmement raisonnable, d'extrêmement responsable. Donc encore une fois, c'est pas un texte qui va à soi seul épuiser la question du traitement des migrations et du traitement des migrations.
On va suivre, évidemment.
C'est un objet manifestement
très ciblé. Évidemment, le texte sera présenté en Conseil des ministres.
Et on verra exactement si l'équilibre auquel le gouvernement prétend parvenir est véritablement là.
Pierre Person, au sein de La République En Marche, beaucoup de parlementaires sont ou seraient très mitigés sur le texte. On parle d'un tiers de parlementaires qui seraient quand même très gênés aux entournures. Est-ce que la majorité peut exploser sur ce texte ?
Non, vous pouvez pas dire, enfin les commentateurs ne peuvent pas dire « Ah, attention, voilà une majorité godillot » et puis après lorsque...
Moi je vous pose la question.
Je vous réponds. Lorsque la majorité exprime des sensibilités, ce serait le bord de la frontière du frondeur. Non, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. En effet, certains parlementaires ont exprimé une sensibilité particulière, notamment sur un amendement déposé par le Sénat que nous avons repris, mais pour autant, le texte a bien été voté hier, et sur la question du projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine, je n'ai aucun doute que le texte sera voté par notre majorité.
Bruno Gollnisch, vous sentez l'opinion publique française très attentive à ces questions, qui l'ont beaucoup pété dans le passé. On avait l'impression que, et lors de la dernière élection présidentielle, que finalement le sujet de l'immigration l'était beaucoup moins.
Non, je crois que c'est toujours un sujet qui préoccupe, mais il y a beaucoup d'étrangers qui se sont parfaitement assimilés à la culture, à la civilisation française, dont les enfants sont français, et nous les considérons comme des compatriotes à part entière. Mais là, nous assistons quand même, Madame Revaux-Dallone ne veut pas le voir, mais à une véritable immigration de peuplement. Il faut aller quand même voir dans certains quartiers, dans certaines villes, et pas seulement d'ailleurs dans les banlieues. Et le problème, c'est que cette loi, elle est faite sans doute pour répondre à ces inquiétudes de l'opinion publique. Mais encore une fois, accélérer les procédures d'examen des demandes d'asile, très bien. Mais le problème, c'est que le demandeur d'asile débouté a supposé qu'il soit effectivement reconduit à la frontière. Ça veut dire quoi, reconduit à la frontière ? Il est reconduit à la frontière. Je l'avais dit à Monsieur Cazeneuve. J'avais dit, un Pakistanais qui est débouté du droit d'asile, il est reconduit à la frontière s'il est arrivé par la Belgique. Il est reconduit à la frontière du côté de Sedan et il revient par la frontière par Charleville-Mézières. Monsieur Cazeneuve avait cru pouvoir ridiculiser ma question en affectant de croire que je ne savais pas que Sedan et Charleville-Mézières étaient des villes françaises. Je parlais bien sûr des postes de douane qui sont à quelques kilomètres de ces villes. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est la réalité que personne ne veut voir. Je voudrais dire une chose aussi quand même, c'est que je suis extrêmement choqué par toutes ces protestation selon laquelle la France serait un pays égoïste. La France a accueilli au cours des 20 dernières années 9 millions d'étrangers. C'est quand même tout à fait considérable. Alors, la France a un des codes de la nationalité les plus généreux, tellement généreux d'ailleurs que même certains des pays comme l'Algérie trouvent que on abuse un peu en donnant la nationalité française à des enfants qui sont nés de père et de mère algériens, que c'est un peu néocolonialiste. Alors je voudrais quand même que l'on reconnaisse ce qu'a fait notre pays et qu'on arrête de culpabiliser les Français. Ils ont le droit de défendre leur identité.
Christine Revaud-Allonne, le Parti Socialiste pendant longtemps a dit il n'y a pas de problème avec les migrants en France. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de problème avec les vagues de migration
en France. Il n'y a pas de vague. Il faut arrêter ce fantasme. Franchement, il n'y a pas de vague. Je vous rappelle les chiffres.
Italiennes, enfin,
vous savez combien de réfugiés ont été accueillis en Allemagne ? 900 000. Vous vous rendez compte de la différence avec ce que la France a fait en termes d'accueil ? Vous savez quels sont les pays qui ont le plus accueilli de réfugiés en Europe ? L'Allemagne, la Suède et l'Irlande. On ne parle jamais de l'Irlande. Parce qu'elle le fait et parce que ça se passe très bien, parce qu'il n'y a pas tous ces fantasmes qui sont autour de cela. Oui. Je voudrais rappeler une chose. Il n'y a plus de code de la nationalité depuis 1993.
Oui, les droits de la nationalité,
c'est terminé.
Tout à fait.
Oui, donc, c'est dans
le code civil.
Très franchement,
maintenant,
sur la question du droit de la nationalité, c'est totalement faux. Et sur toutes ces questions-là...
Il y a des lois de nationalité,
encore une
quand
fois,
même.
Il n'y a pas de vague. Il y a les réfugiés, ceux qui demandent l'asile. Il y a les personnes qui viennent comme... demandant le regroupement familial. Et aujourd'hui, en termes de migration économique, les seuls qui sont autorisés en France, c'est avec les cartes compétences et talents selon diplôme. Il n'y a pas d'autre possibilité de venir s'installer en France aujourd'hui. Et quand vous regardez dans un certain nombre de secteurs, que ce soit en France et dans beaucoup de pays européens, il y a des besoins d'emploi qui ne sont pas pourvus par des Européens et pour lesquels on pourrait ouvrir cette question de la migration économique et sortir de cette idée que la migration économique, c'est impossible.
En somme, pour vous, Mme Revaud-Allonne, l'humanisme, ça consiste à faire balayer la neige à Dunkerque par des Sénégalais.
Non, mais la question
que les Français ne veulent pas
sur ce
faire.
Sujet, comme sur beaucoup d'autres, c'est celui de l'efficacité de l'action de l'État et du respect de l'autorité d'État et du respect des lois de la République. Le projet de loi qu'on nous annonce est censé améliorer la situation, encore une fois, des demandeurs d'asile et faire en sorte que, c'est en tout cas ce que promet Gérard Collomb, les demandeurs d'asile déboutés soient effectivement reconduits dans leur pays d'origine. C'est là que nous serons extrêmement vigilants, nous les Républicains, et que nous regarderons vraiment dans le détail, et notamment aussi ce qui se passe pour la situation familiale des demandeurs d'asile. Maintenant, de manière plus générale, les véritables défis migratoires qui sont aux portes de l'Europe, ils sont en fait, pas exactement encore aujourd'hui, mais ils sont demain, après-demain. Quand on regarde la situation démographique africaine, on voit bien que les énormes défis sont à venir. Et là, il faudra quand même qu'on soit à peu près clair sur nos positions.
Tout est politique. On se retrouve dans deux petites minutes, 21h50. L'info, Diane Ferchit.
Dans l'affaire Théo, une expertise médicale conclut qu'il n'y a pas eu de viol. C'est une information de nos confrères de France Inter. Théo avait été grièvement blessé par la matraque d'un des policiers lors de son arrestation. Les faits s'étaient produits à Aulnay-sous-Bois en février 2017. Déjà condamné à la perpétuité pour 7 assassinats, Michel Fourniret a avoué aujourd'hui 2 nouveaux crimes, ceux de 2 jeunes filles au début des années 90 dans le département de l'Yonne. Celui que l'on surnomme l'ogre des Ardennes a fait des aveux circonstanciés et réitérés selon l'avocate de la famille d'une des 2 victimes. Un appel à la mobilisation pour le 22 mars à la SNCF. Les cheminots sont en colère au lendemain de la présentation du rapport Spinetta, rapport sur la réforme du système ferroviaire en France. Ils remettent en cause notamment leur statut. Quand on est attaqué, on se défend, a réagi Philippe Martinez, le leader de la CGT, assurant que les cheminots ne laisseront pas casser leur outil de travail. La police fédérale américaine admet une défaillance ce soir. Elle avait été avertie le mois dernier de la dangerosité du jeune tireur, auteur d'une fusillade meurtrière dans un lycée en Floride. Une information qui aurait dû être traitée comme une menace potentielle, admet ce soir le FBI. 17 personnes ont été tuées. C'est la plus jeune médaillée tricolore de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver. À tout juste 16 ans, Julia Pereira de Souza a remporté l'argent en snowboard cross. Elle permet à la France d'afficher 7 médailles au compteur dans ces Jeux de Pyeongchang en Corée du Sud.
France Info.
21h-22h, tout est politique, Olivier Delagarde.
Allez, on avance dans l'actualité où on parlait d'un projet de loi qui sera présenté mercredi prochain. On va aller un petit peu plus loin pour parler d'élections qui auront lieu au printemps prochain, les futures élections européennes. L'Assemblée nationale a voté mardi le retour à une seule circonscription nationale des futurs députés européens. Pourquoi, Pierre Persson, il n'y a pas, au témoin d'un doute, il n'y a pas d'arrière-pensée de politique politicienne dans cette décision?
Non, aucunement. D'ailleurs, Madame Le Grip le dira, parce que simplement les LR étaient contre. Sinon, tous les autres partis étaient favorables au retour à la circonscription unique. D'ailleurs, 23, je crois, sur 27 États membres sont à la circonscription unique. Donc, ce n'est pas aujourd'hui une spécificité française. Et puis, par ailleurs, avant 94, nous avions un scrutin européen qui était aussi sur la circonscription unique. Je pense que l'enjeu, c'est redonner la lisibilité. Parce que l'Europe, ce n'est pas une somme de territoires, c'est avant tout un projet, et que ce projet, il s'incarne aussi au niveau national, et que la grande problématique de l'Europe, c'est son taux d'abstention, c'est aujourd'hui le désintérêt des citoyens européens, la non-compréhension, l'absence d'incarnation, et donc il faut retrouver dans les élections européennes, eh bien, tout l'enjeu du projet européen. Et je pense qu'en ce sens que la circonscription unique va nous y aider.
Alors Constance Le Grip, il est très convaincant, votre voisin, pourquoi vous n'y croyez pas?
En tout cas, il ne nous a pas convaincus. C'est vrai que nous, les Républicains, nous avons bataillé contre le retour en arrière, contre la marche arrière, contre ce que nous considérons être une régression, le retour au mode de scrutin.
Pourquoi? Parce qu'il va falloir trouver qu'un seul tête de liste?
Non, c'est pas ça. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes volontés, très franchement, qui se sont déjà manifestées. On n'a pas de souci à trouver des hommes et des femmes qui veulent...
Il y en a peut-être un peu trop, d'ailleurs. C'est ça le problème. Il va falloir choisir qu'un seul.
On n'a jamais de problème avec l'abondance de talent et d'énergie. Ça, c'est pas le souci.
Pas de problème d'égo chez les Républicains.
Il nous semble... Jamais. En chasse en meute, c'est bien connu. Non, la question est vraiment d'avoir des élus européens qui ne deviennent pas des élus hors sol, sans attache territoriale, enfermés dans une bulle bruxello-strasbourgo-bruxelloise et qui ne se sentent plus tenus, parce qu'ils n'auront pas été élus sur des bases territoriales, de venir régulièrement rendre compte localement dans leur territoire de la manière dont ils exercent leur mandat et qu'ils ne viennent plus littéralement parce qu'ils ne seront pas attachés, ancrer un territoire, rendre compte, rencontrer les élus territoriaux, les élus locaux, bon, les chambres consulaires. Nous avons souhaité, effectivement, rester dans la logique de la représentation territoriale et aller sur les grandes circonscriptions.
On a deux parlementaires européens. Bruno Gollnisch, c'est quoi la position du FN?
Nous sommes favorables à la circonscription unique. Nous l'avions toujours dit. On avait découpé la France sous Sarkozy en immense Euroländer qui ne correspondent à rien.
Pourquoi vous avez calculé que vous aurez plus d'eurodéputés?
Non,
grâce
mais
à
moi,
ça
écoutez, j'ai été élu d'une de ces grandes régions qui va, en l'occurrence, je devrais faire tous les marchés, depuis le marché au poulet de Bourg-en-Bresse jusqu'au marché aux poissons de
Bonifacio. Non, c'est pas ce qu'on attend d'un député européen qu'il aille sur les marchés.
C'est complètement artificiel. Non, je pense que la circonscription française, car nous sommes des députés français au Parlement européen, nous devrions normalement tous représenter les intérêts légitimes de la France, en coopération avec nos partenaires, bien sûr. Et je pense que ça permettra de confronter les projets. Ça va être très important. Et d'éviter cette dilution au niveau d'immenses régions qui ne correspondent à rien. Maintenant, ce que je regrette beaucoup, quand même, c'est que le gouvernement... qui, dans son projet, disait qu'il fallait donner plus d'importance à l'élection européenne, donner plus d'importance au débat européen. La partie de la loi qui concerne la communication pour cette campagne, pour informer les Français, a prévu, c'est assez mesquin et misérable, il faut bien le dire, Monsieur Persson, de ne tenir compte que des groupes représentés à l'Assemblée nationale, mais pas des groupes politiques représentés au Parlement européen, sans doute parce que le premier groupe politique représenté au Parlement européen, c'est celui du Front national.
Alors,
bon, ça, ce sont des mesures.
Christine Robodal, miracle, vous allez être d'accord avec ce qu'a dit Bruno Gollnisch et Pierre Persson?
Sur la question des listes nationales.
Oui, c'est ça dont on parle.
Absolument.
Là, oui.
Et pourquoi on y était favorable? Tout d'abord parce que entre 2014 et maintenant, il y a eu un redécoupage des régions et que donc le découpage des circonscriptions régionales telles qu'on les a connues
de toute façon,
en 2014.
Nous on se retrouve
avec des circonscriptions européennes de 2014 qui sont maintenant dans deux régions complètement différentes. Donc de toute façon, il fallait revoir ce mode-là.
Il fallait s'assurer,
si on maintenait un découpage par circonscription régionale, qu'on avait une juste représentativité. Aujourd'hui, on se trouve dans des territoires, l'Île-de-France et les Français de l'étranger, ça représente 12 millions de personnes. Et à côté, vous avez des régions comme la Normandie, où, je n'ai pas les chiffres, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais beaucoup moins. Donc il y a la question de la représentativité qui n'était pas là. Et enfin, j'ajoute... On est beaucoup de députés européens à faire effectivement le travail de terrain en circonscription.
Moi, je le fais.
Mais c'est pas le cas de tous, c'est surtout de ceux qui étaient élus sur une circonscription sans jamais y avoir mis les pieds.
Merci.
Donc, il faut arrêter avec cette hypocrisie.
Et on va d'ailleurs arrêter avec cette émission à tous les citoyens.
Quel dommage.
Tout est politique, c'est terminé pour ce soir, c'est dommage. Mais vous savez à quoi on reconnaît une bonne émission? C'est qu'on en sort un petit peu frustré. Merci à vous quatre.
Merci à vous. À très bientôt.
Tout est politique.
Merci.
Lundi soir, 21h, je vous retrouverai avec plaisir.